Quel est le rôle de l'esprit? Rôle de l'esprit.
Que c'est à la fois l'intermédiaire conscient entre le suprême et la manifestation, et le lieu de rencontre de la manifestation avec le suprême. L'esprit est capable de comprendre et de communier avec la divinité la plus haute, et en même temps, il est l'intermédiaire le plus pur, le moins déformé, peut-on dire, de la divinité la plus haute dans la manifestation la plus extérieure. C'est l'esprit à l'aide de l'âme qui tourne la conscience vers le haut, vers le divin, et c'est dans l'esprit que la conscience peut commencer à comprendre le divin. On pourrait dire que ce que l'on appelle esprit c'est l'atmosphère amenée par la grâce dans le monde matériel afin qu'il se réveille à la conscience de son origine et qu'il aspire au retour vers elle. C'est vraiment sorte d'atmosphère qui libère, qui ouvre les portes. Qui débride la conscience. C'est elle qui permet la réalisation de la vérité et qui donne à l'aspiration son plein pouvoir de réalisation. On pourrait le mettre de l'autre manière. C'est à cette action, à cette influence lumineuse et libératrice qu'a été donné le nom d'esprit. À tout ce qui nous ouvre le chemin vers les réalités suprêmes. Qui nous tire de notre englouement dans la boue de l'ignorance. Qui nous ouvre les portes, qui nous montre le chemin, qui nous conduit là où il faut aller. Je pense que c'est à cela que l'homme a donné le nom d'esprit. C'est l'atmosphère créée par la grâce divine dans l'univers. Pour le sauver des ténèbres dans lesquelles il est tombé. L'âme est comme sa concentration individuelle. Sa représentation individuelle dans l'être humain. L'âme est une chose spéciale à l'humanité qui n'existe que dans l'homme. C'est comme une expression spéciale de l'esprit dans l'être humain. Les autres régions, les êtres des autres religions n'ont pas d'âme, mais ils peuvent vivre dans l'esprit. On pourrait dire que l'âme est une délégation de l'esprit dans l'espèce humaine, une aide spéciale pour le mener plus vite. C'est l'âme qui permet le progrès individuel. L'esprit, dans sa forme originelle, a une action plus générale, plus collective. L'esprit, pour le moment, joue le rôle d'une aide et d'un guide, mais il n'est pas le maître tout-puissant de la manifestation matérielle. Et c'est quand le supramental sera organisé en un monde nouveau qu'alors l'esprit deviendra le maître et gouvernera la nature. D'une façon évidente et visible. Ce que l'on appelle la nouvelle naissance, c'est la naissance à la vie spirituelle, à la conscience spirituelle. C'est porter en soi quelque chose de l'esprit qui, individuellement, à travers l'âme, peut commencer à gouverner la vie et à être le maître de l'existence. Mais dans le monde supramental, c'est l'esprit qui sera le maître de ce monde tout entier et de toutes ses manifestations et toutes ses expressions. Consciemment, spontanément, naturellement. Non, l'existence individuelle, c'est ça qui fait toute la différence. Tant qu'on parle de l'esprit et que c'est quelque chose, que l'on a lu, dont on connaît l'existence, mais qui est réalité pas très concrète pour la conscience. Ça veut dire que on n'est pas né à l'esprit. Et quand on est né à l'esprit, ça devient quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus vivant, beaucoup plus réel, beaucoup plus tangible que tout le monde matériel. Et c'est ça qui fait la différence essentielle entre les êtres. Ceux pour qui c'est ça qui est spontanément la chose réelle, l'existence vraie, concrète, l'atmosphère dans laquelle on peut respirer librement. Alors on sait qu'on a passé de l'autre côté. Mais tant que c'est quelque chose d'un peu vague et imprécis, on en a bien entendu parler, on sait que ça existe, mais ça n'a pas de réalité concrète. Eh bien, ça veut dire que la nouvelle naissance est encore à prendre place. Tant que on se dit oui, ça que je vois, ça que je touche, le mal dont je souffre, la faim qui me tourmente, le sommeil qui m'alourdit, ça c'est vrai, ça c'est concret. Ça veut dire qu'on est encore de l'autre côté. Au fond, l'immense majorité des hommes est comme des prisonniers avec toutes les portes et toutes les fenêtres fermées, alors ils étouffent, ce qui est assez naturel. Mais ils ont avec eux la clé qui ouvre les portes et les fenêtres. Et ils ne s'en servent pas. Certainement, il y a une période où ils ne savent pas qu'ils ont la clé. Mais longtemps après qu'ils le savent, longtemps après qu'on leur a dit, ils hésitent à s'en servir. Et ils doutent. Ou quel est le pouvoir d'ouvrir portes et fenêtres? Ou même qu'il est bon d'ouvrir les portes et les fenêtres? Et même quand ils ont une impression que, après tout, ce serait peut-être bien, il reste une crainte de qu'est-ce qui va arriver quand ces portes et ces fenêtres sont ouvertes. Et ils ont peur. Ils ont peur de se perdre dans cette lumière et dans cette liberté. Ils veulent rester ce qu'ils appellent eux-mêmes. Ils aiment. Leur mensonge et leur esclavage. Quelque chose en eux l'aime. Et ils restent agrippés. Il leur reste l'impression que sans leurs limites, ils n'existeraient plus. C'est pour ça que le trajet est si long. C'est c'est pour ça qu'il est difficile. Parce que si vraiment on consentait à ne plus être, tout deviendrait si facile, si rapide, si lumineux, si joyeux. Mais peut-être pas de la manière dont ils conçoivent la joie et la facilité. Au fond, il y a très peu d'êtres qui n'aiment pas la bataille. Il y en a très peu qui consentiraient à ce qu'il n'y ait pas de nuit et qui ne conçoivent la lumière que comme l'opposé de l'obscurité, sans ombre, il n'y aurait pas de tableau, sans lutte, il n'y aurait pas de victoire, sans souffrance, il n'y aurait pas de joie. Voilà ce qu'il pense, et tant qu'on pense comme ça, on n'est pas encore né à l'esprit.